Henri Poincaré, Science et méthode. Conclusion générale. Ce que j'ai cherché à expliquer dans les pages qui précèdent, c'est comment le savant doit s'y prendre pour choisir entre les faits innombrables qui s'offrent à sa curiosité, puisque aussi bien la naturelle infirmité de son esprit l'oblige à faire un choix, bien qu'un choix soit toujours un sacrifice. Je l'ai expliqué d'abord par des considérations générales, en rappelant d'une part la nature du problème à résoudre, et d'autre part en cherchant à mieux comprendre celle de l'esprit humain, qui est le principal instrument de la solution. Je l'ai expliqué ensuite par des exemples. Je ne les ai pas multipliés à l'infini. Moi aussi, j'ai dû faire un choix. Et j'ai choisi naturellement les questions que j'avais le plus étudiées. D'autres que moi auraient sans doute fait un choix différent, mais peu importe, car je crois qu'ils seraient arrivés aux mêmes conclusions. Il y a une hiérarchie des faits. Les uns sont sans portée et ils ne nous enseignent rien qu'eux-mêmes. Le savant qui les a contactés n'a rien appris qu'un fait et n'est pas devenu plus capable de prévoir des faits nouveaux. Ces faits-là, semble-t-il, se produisent une fois, mais ne sont pas destinés à se renouveler. Il y a d'autre part des faits à grand rendement. Chacun d'entre eux nous enseigne une loi nouvelle. Et puisqu'il faut faire un choix, c'est à ceci que le savant doit s'attacher. Sans doute, cette classification est relative et dépend de la faiblesse de notre esprit. Les faits à petit rendement, ce sont les faits complexes sur lesquels des circonstances multiples peuvent exercer une influence sensible, circonstances trop nombreuses et trop diverses pour que nous puissions toutes les discerner. Mais je devrais dire plutôt que ce sont les faits que nous jugeons complexes parce que l'enchevêtrement de ces circonstances dépasse la portée de notre esprit. Sans doute, un esprit plus vaste et plus fin que le nôtre en jugerait-il différemment, mais peu importe, ce n'est pas de cet esprit supérieur que nous pouvons nous servir, c'est d'une autre. Les faits à grand rendement, ce sont ceux que nous jugeons simples, soit qu'ils le soient réellement parce qu'ils ne sont influencés que par un petit nombre de circonstances bien définies, soit qu'ils prennent une apparence de simplicité parce que les circonstances multiples dont ils dépendent obéissent aux lois du hasard et arrivent ainsi à se compenser mutuellement. Et c'est là ce qui arrive le plus souvent. Et c'est ce qui nous a obligés à examiner d'un peu plus près ce qu'est le hasard. Les faits où les lois du hasard s'appliquent deviennent accessibles aux savants qui se décourageraient devant l'extraordinaire complication des problèmes où ces lois ne sont pas applicables. Nous avons vu que ces considérations s'appliquent non seulement aux sciences physiques, mais aux sciences mathématiques. La méthode de démonstration n'est pas la même pour le physicien et pour le mathématicien, mais les méthodes d'invention se ressemblent beaucoup. Dans un cas comme dans l'autre, elles consistent à remonter du fait à la loi et à rechercher les faits susceptibles de conduire à une loi. Pour mettre ce point en évidence, j'ai montré à l'œuvre l'esprit du mathématicien est sous trois formes. L'esprit du mathématicien inventeur et créateur, celui du géomètre inconscient, qui, chez nos lointains ancêtres ou dans les brumeuses années de notre enfance, nous a construit notre notion instinctive de l'espace, celui de l'adolescent, à qui les maîtres de l'enseignement secondaire dévoilent les premiers principes de la science et cherchent à faire comprendre les définitions fondamentales. Partout, nous avons vu le rôle de l'intuition et de l'esprit de généralisation, sans lequel ces trois étages de mathématiciens, si j'ose m'exprimer ainsi, seraient réduits à une égale impuissance. Et dans la démonstration elle-même, la logique n'est pas tout. Un vrai raisonnement mathématique est une véritable induction, différente à bien des égards de l'induction physique, mais procédant, comme elle, du particulier au général. Tous les efforts qu'on a faits pour renverser cet ordre et pour ramener l'induction mathématique aux règles de la logique n'ont abouti qu'à des insuccès mal dissimulés par l'emploi d'un langage inaccessible aux profanes. Les exemples que j'ai empruntés aux sciences physiques nous ont montré des cas très divers de faits à grand rendement. Une expérience de Kaufmann sur les rayons du radium révolutionne à la fois la mécanique, l'optique et l'astronomie. Pourquoi? C'est parce qu'à mesure que ces sciences se sont développées, nous avons mieux reconnu les liens qui les unissaient. Et alors, nous avons aperçu une espèce de dessin général de la carte de la science universelle. Il y a des faits communs à plusieurs sciences qui semblent la source commune de cours d'eau divergents dans toutes les directions et qui sont comparables à ce nœud du Saint-Gothard d'où sortent des eaux qui alimentent quatre bassins différents. Et alors, nous pouvons faire le choix des faits avec plus de discernement que nos devanciers qui regardaient ces bassins comme distincts et séparés par des barrières infranchissables. Ce sont toujours des faits simples qu'il faut choisir, mais parmi ces faits simples, nous devons préférer ceux qui sont placés à ces espèces de nœuds du Saint-Gothard dont je viens de parler. Et quand les sciences n'ont pas de lien direct, elles s'éclairent encore mutuellement par l'analogie. Quand on a étudié les lois auxquelles obéissent les gaz, on savait qu'on s'attaquait à un fait de grand rendement. Et pourtant, on estimait encore ce rendement en dessous de sa valeur, puisque les gaz sont, à un certain point de vue, l'image de la Voie lactée, et que ces faits qui ne semblaient intéressants que pour le physicien ouvriront bientôt des horizons nouveaux à l'astronomie qui ne s'y attendait guère. Et enfin, quand le géodésien voit qu'il faut déplacer sa lunette de quelques secondes pour viser un signal qu'il a planté à grand-peine, c'est là un bien petit fait, mais c'est un fait à grand rendement, non seulement parce que cela lui révèle l'existence d'une petite bosse sur le géoïde terrestre, cette petite bosse serait par elle-même sans grand intérêt, mais parce que cette petite bosse lui donne des indications sur la distribution de la matière à l'intérieur du globe, et par là, sur le passé de notre planète, sur son avenir, sur les lois de son développement.